Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Les mots sont brefs, leur vide immense. On peut dire oiseau, on peut dire pluie, on peut dire brume. Les mots nous laissent dans le vide. Les mots ne donnent pas forcément le sens, la direction. Ce que l'on trouve dans nos dictionnaires n'est pas forcément satisfaisant. Il faudrait alors aller toucher le vent, se mettre sous la pluie, se perdre dans la brume et chercher le sens. Lacan écrivait « Les signifiants sont répartis dans le monde, dans la nature, ils sont là, à l'appel. » Le tonnerre, tout le monde sait très bien que c'est un signe. Même si on ne sait pas le signe de quoi c'est la figure même du semblant. Dominique Méhens est parti dans la nature. Lui qui a l'habitude des chants d'oiseaux est parti dans des terres inconnues, plus au nord, en Finlande, écouter de nouvelles voix. Au petit matin, il a entendu les grues. Qu'y a-t-il à entendre ? Le poète est en chasse, forcément, c'est une traque. À travers les sons, il cherche de nouveaux mots. À travers le chant, il cherche la direction. En ornithologue et amoureux de la langue, Dominique Méhens ne pouvait qu'aller se mettre dans la nature et dans la brume, pour tout gommer, tout effacer de ce que l'on connaît et tout réécrire. À partir du simple cri de la grue, comme un trait, comme le début d'une nouvelle phrase. Le monde des oiseaux, c'est du silence et des cris. Entendre la nature, c'est traverser le silence. C'est à notre époque laisser derrière soi le pollué, le radioactif, pour revenir au blanc. On lit dans l'épopée des Finnois le Kalevala. Il est aussi d'autres paroles trouvées sur le bord du chemin. Les oiseaux ont fourni des sons, les cimes des arbres, des vers. Il y a une correspondance entre la nature et les mots. C'est John Berger qui écrit que le son d'un arbre qu'on coupe et le silence qui suit ressemblent exactement au silence qui suit une mort dans nos vies. Les cimes des arbres donnent des vers. En juin, Dominique Méhens part seul. En septembre, il part accompagné. Il y a entre les deux un été. Il y a entre les deux l'idée qu'on est plusieurs devant la nature, pas seul sous les grues. Voilà les oiseaux. Les mots sont venus ensuite pour bien les accompagner, pour dialoguer. En Finlande, la Hasse au Brègue, chapitre 1, où le poète à cravate blanche se soumet aux grues. De Dominique Méhens, Gaël Gillon et Philippe Bredin.
La Hasse au Brègue, première partie. Arrivage. Non, maham, messieurs, notre voyage ne sera celui du bigleux ni du kleps. S'il montgolfière notre bagage, quand d'un doigt nous y sommes appendus. Ce voyage pas plus ne sera crise de nerfs, entortillé ou vers perdu. Ainsi, chose dite que je vous dise, ce que je nie trois fois est voir tordu. La trompe a beuglé, c'est lui. Le poète à la cravate blanche a corné son refrain. Tous en frémissent de la tête aux pieds. Taire tous, mais quel ? Définissons. La âme est sans elle, mais demoiselle est son fourbi quand on ne la voit pas, beauté pure. Elle fait rare à la marelle. Et des noms, dame, elle en a, et des tas. Les messieurs qui lui font ciel sont en nombre. Comptons-les. Ma foi, ils sont très nombreux. De plus, dissimulés tous dans son ombre, oncles, cousins à la mode de Breu. Brahms ! Ce teigneux ? Est-ce ainsi qu'il se nomme ?
Oui. Et ce beau gosse, hongrois, Tadeuse. Ce troisième, gras, polissé, bonhomme, est soi-disant du type prétendu.
ici un cheval et là une tortue, masques et déguisements animaux. Et nous qui parlons, réponse têtue. Moi, toujours le même homme à mots, vos gueules, les mouettes. Seul je parle, où c'était as au brègue, est-il écrit. Je recommence aux fuligules, aux harles, à l'éder, niché, retenant leurs cris. En est-il au mi-loin que s'éloigne vers le Potchard notre traducteur Brahms. Notez le Ponasotka qu'il rejoigne en ses carnets, ses inventaires Brahms-éthiques. Vie maigre, vie de Kyriel. Songe ce barbuzard pêcheur d'index. Il sera de cette bande plurielle le glossary industrius rex. Ces mots, le traducteur Brahms ne les mâche qu'en soi-disant les avale un par un. C'est la paire indigeste et la cravache du poète
« Cravate !»
n'y peut rien. La rame dans ses cales à la chantonne, accords accrus, le crave à la cravant, terre tous de penser « Dieu qu'elle est mignonne !» et de rêvasser dur en l'écrivant.
Âme clémente, ami, halte là, nous y sommes. Ces forêts sans débat, ces lacs à terminer, ce bleu haut, ce vert bas, ces vitraux où tout comme vous n'y fûtes, ni moi, ni l'un de nos aînés. Trois fois ni fait ni à refaire, je commence. Que hassons-nous ? Le brègue. Qu'est-ce que hasser qu'un brègue ? Les mots sont brefs et leur vide immense. La hasse est une traque sans fin, sans assez.
Le brègue, insignifiant. Du tas dans la nature, qu'il y a sans qu'on le sache, qui s'y muche incognito, ergo sum, terre tous à la rature. J'ajoute, sous l'œil bien mort des dieux achichins, pourquoi je tiens mon discours à l'Alexandrine. Que chaque un, ici, veille sur l'autre voisin, qu'un brègue le chope, s'il n'est cuit, il marine, son jus nous contamine, nous voilà tous zinzin. Aux aguets, le Hongrois, et toi, belle nymphette, serre la cuisse et tend l'oreille, le tympan pour hymen, et tes plaisirs menés à leur fête, dénonceront la puissance du brègue et pan. Surgit de nulle part, d'un bon coup de savate, soi-disant l'étendra, et Brahms le traduira en français, notre langue natale et savante, dès que plusieurs, j'écrirai un poème. Hurrah ! La cravate blanche du poète s'envole, très en l'air, vibrante, ses deux mains ont suivi. Tout un monde et Bobby applaudit sa parole et son dire et son ton et les tempi du dit. Il corne un coup sa chanson de mémoire, le calme est revenu sur ses dix pieds. Ta deuse goûte l'eau, salée. Quelle histoire ! La mer, c'était un lac. À qui se fier ? Brahms ouvre ses carnets, déplie les cartes. De l'eau partout. Nous nous en tiendrons là. Soi-disant l'asperge. Avec ça, ils partent. Qui donc ? Culex et tout le tralala. Couvert d'un plaid, le cheval à bonne mine. Saint-Georges, tout y est, sans cavalier. N'en fait qu'à sa tête. Ensuite, il chemine. Imperturbablement seul allié. Le poète le croit un piège à brègue, tout comme la tortue qu'il sort d'un sac à pommes de terre où elle s'abrège. Sortie, Elle émerge, il la baigne au lac. Tadeuse ne voit pas le rapport. La Hamme, si. Brahms, le traducteur, et soi-disant, l'ignore, tout comme ce cheval sans âme. Tous décrit, ça va marcher 10 ans. « 10 ans, 10 mois, 10 jours ou 10 minutes, dit la tortue, le brègue est pas d'hier. Le cheval, qui lui cause avec des culbutes, des épaules en dedans et des changements de pied, rétorque. Dépêchons, qu'on les sépare. Ils sont ainsi à grogne que veux-tu, dès que la hasse au brègue se prépare, craignant de croiser le bogre battu. Fille donc. « Suffit de ces plaisanteries, » rouspète le Brahms. « Inventer un mot ne dit rien du fait. Des têtes ahuries, des brutes s'en contenteraient, pas moi. » On ne trouvera dans vos dictionnaires ni l'un ni l'autre, mais soyons cléments. Suggère la Hamme extraordinaire, de douceur opportune en ces moments troublants de nervosité narrative. Ainsi terre tous. Les voilà regroupés, penauds et anxieux, sans alternative, sous la houppe du trou de balle. Corné la trompe à la cravate blanche, l'homme qui nie 3 fois de suite pour voir, l'homme qui s'en est payé 5 ou 6 tranches, déjà de brègue ou bogre à les savoir. Silence dans les rangs! Reprenons, Alexandre. Ah, mémé, chers amis, brègue est insignifiant brûlant à couvert sous la cendre, celle de nos dépôts de savoir lénifiant. Bogre en est un autre, s'il est le même empire. Brègue lance un appel et bogre le reprend. L'aigle à 2 têtes, si tête n'était trop dire. Acéphale, vous l'apprendrez à vos dépens. Leur préférence va aux cervelles bien mûres, si les fraîches sont vite gobées, chère tadeuse. Vous n'aborderez le bogre que s'il murmure du brègue, bien le bonjour sinon et adieu. Le bogre est continu sous la partie discrète du brègue. Ici, le vent, là, le clapot, le cri. Ce ne sont qu'exemples de ce qui se répète, toujours différemment, rien qui ne soit écrit. L'embarras est parfait, la défaite totale, ignorée de celui qui ne sait l'ignorer. Le bogre s'avance, décervelle et avale. Le brègue démembre et s'oublie revigoré. Le premier nous rend fou. Le second, imbécile, voyez ma tortue stupide et mon cheval cintré. Le bogre pattu fera d'un saut d'un débile, canaille redouté, recruté sur le champ, trésor, vigile, larbin surprenant, volontaire, menton prognate, biscotto, tête de nœud. Reconnaissez l'inénarrable caractère du cadre supérieur, ce dourgeois de mes bœufs. Passons. Revenons à nos défis difficiles. Nos fins et nos moyens assaisonnés d'orgueil. Préparons-nous. Tendons l'oreille à l'illisible. Inspectons de l'orteil. Narinons de l'œil. Vous savez le pourquoi non de notre voyage. Je vous l'ai ni 3 fois et soufflé de ma trompe. Bogre ou brègue, nenni domestique ou sauvage, nos labours en sont pleins, nos faubourgs et leurs pompes. Venus ici pourtant, pour le déséquilibre, pour l'incompréhension, pour notre aveuglement. Je nous vois tous, amis, la bouche bée et libre, de ne pouvoir dire ici un mot seulement.
Ces contrées, leurs lacs, leurs forêts, nous sont muettes. Notre page est vierge comme leur jour sans fin. Reconnaissez le vide où chantait l'alouette.
C'est là qu'insignifiant de son trait le plus fin, l'inondera du vrai, de nous inquiets qu'il barre. Gare ! Le brègue nous est si peu étranger, le bogre si naturellement peu barbare, qu'un rasoir exotisme voudrait en changer. Voyez-les courir les déserts, grimper aux arbres, hanter les océans, se saouler de lointains. Tout leur est insuffisamment impénétrable. Bientôt revenus de tout, que font-ils ? Tintin. Ai-je une cloche où timbrer mon heure et la vôtre ?
Non.
Je trompe et nie, point. Vous ferez comme moi. Cheval marchera devant, nous serons ses apôtres. La phrase commande, le bras tombe, allez-moi.
Nie et nie le cheval. C'est parti, ça trotte, où vont-ils ? D'ici à là, là et là.
Prudence et pudeur, vertu et poinsotte tairont les lieux de ce Kalevala.
Ce furent lacs et forêts et rivages, vite déserts avec des hommes taiseux, mais doux et bienveillants à leur passage, café chaud, poisson fumé, crème aux œufs. Quelques-uns avaient croisé l'un ou l'autre, et sous un autre nom le signifiant, brègue à la dérive ou bogre en son antre. Ils bénirent nos inconscients confiants et les guidèrent l'air de rien, sans ruse, laissant la troupe trouver son chemin. Tout comme ici mon poème à sa muse, gamine, discrète, effacée demain. Clémence court partout, c'est tous les jours à point d'heure. Je suis sur ma réserve. Je suis arrêté par une sorte de barrière, une sorte de fil de fer quadrillé, de la clôture à moutons, il me semble. Nous autres, donc, de ce côté, avec notre recherche du signifiant dans la nature, et de l'autre, un vanneau qui vient de se poser, malheureusement, silencieusement. Au loin, un chien, et très loin, beaucoup plus loin, les piaulements d'oiseaux marins. C'est ici que ce matin, j'ai cru enregistrer deux grues que nous avions surprises à leur toilette. Elles ne s'envolèrent pas car elles avaient leurs petits dans le marais, mais elles gueulèrent. Comme nous le remarquions dans notre émission d'hier, les oiseaux se prononcent assez souvent quand on les dérange. Tout ici, à notre grande déception, est plutôt lointain. Vu la clôture à moutons, il s'agit d'une réserve.
Thank you.
De ce côté de la clôture à moutons, nous cherchons le signifiant dans la nature. Et nous croyons que ce signifiant dans la nature se trouve de l'autre côté de la clôture à moutons, dans la réserve. Une réserve, en quelque sorte, de signifiant dans la nature. Bien entendu, puisque, après tout, il n'y a rien à entendre, comme vous le constatez avec moi et amèrement, ça ne marche pas de ce pas-là. Les réserves, et précisément ici les réserves ornithologiques, ne sont pas des réserves de signifiants dans la nature. Ce n'est pas ici que nous trouverons, le traducteur Brahms et moi, le braque ou le bigre que nous vous promettons depuis le début de la semaine, consacré au semblant dans la nature, à ce semblant qui est insignifiant, identique à lui-même, etc. Ce matin, malgré tout, tout allait pour le mieux. J'étais heureuse, j'étais exultante et fière. J'entendais, figurez-vous, et j'allais donc vous faire entendre, les grues que je dérangeais. Je les entendais très bien. Comme j'étais très près, j'observais le détail du cri de la grue, qui n'était plus aussi simple que je l'avais cru. Peut-être me paraissait-il, après tout, je puis comprendre moi aussi, un beau semblant du genre braguet. Mais voilà, j'ai fait une belle bêtise aux grandes dames de notre petite équipe. J'ai coupé, sans l'avoir d'abord interrompu, mon enregistrement, le programme de la machine, à considérer que je le tenais pour ni fait ni affaire. Du coup, pas de grue pour notre émission d'aujourd'hui. Que du lointain, de la réserve, du compte à soi, de la clôture à moutons. voici que j'arrive à une tour d'observation. Pour ne rien vous cacher, j'ai couru d'une réserve à l'autre dans cette île, et j'y ai trouvé de belles tours d'observation. Celle-ci est singulière. Elle a pour caractéristique de ne pas disposer d'une partie de l'escalier qui permettrait d'accéder au premier et second étage d'observation. D'autre part, les panneaux qui permettent à l'ornithologue ou à l'amateur de s'orienter afin d'accéder à cette fameuse tour ont été visiblement arrachés, piétinés, franchement bousillés.
Il doit donc y avoir quelques mécontents. S'il n'y a pas de signifiant dans la réserve, de la fiction, il y en a. Ce morceau manquant d'échelle, disons d'escalier, parce que c'est tout de même une échelle confortable, qui a plutôt la forme d'un escalier que d'une échelle, je soupçonne que vous arrivez à vous représenter la chose, ce morceau manquant est source de fiction.
Il a bien fallu l'ôter. Qui a décidé de l'enlever? Qui l'a supprimé? Comment et pourquoi?
Ce n'est heureusement pas l'objet de notre recherche.
Ce matin, cette partie de la baie était très animée. Il y avait là des cygnes, des grues, pas mal d'autres oiseaux. J'y étais, moi aussi, demoiselle et particulièrement gaie, du fait de ce que je vous racontais, d'avoir surpris les grues à leur toilette. Ce soir, l'humeur a changé. D'une tristesse à fendre l'âme. Entendez-vous ce cœur mélancolique? Ce qui pourrait être assez amusant, c'est d'aller nous perdre dans le vent. Je vais donc terminer ce moment radiophonique, ce passage de la chasse au bègue, au broc, je ne sais plus comme vous dites exactement, monsieur Brahms. Hasse au brègue, d'accord. N'y a-t-il pas un chemin, monsieur Brahms, où nous pourrions aller un peu noyer ce morceau dans le vent, comme j'ai dit? Par là? Courons-y, à défaut de brègue, de bogre, à défaut de signifiant dans la nature, oui?
Un des premiers signifiants dans la nature, c'est le silence. Pourquoi? Parce que le silence, ça finit par angoisser. Rien de tel qu'un bon signifiant pour vous angoisser.
La revoilà! La revoilà, monsieur Brahms! Voyez la chouette, là, qui passe. Elle a quelque chose dans les serres. Elle aura serré quelque chose dans le bois et s'en va maintenant. Elle doit avoir son nid de l'autre côté du champ. C'est cela même, elle vient de traverser le champ. Elle entre dans le bois d'en face. Si nous la suivions, une chasse, enfin! Courons! Une chasse effrayante, elle effraie, n'est-ce pas, monsieur Brahms? Allons, courez, Brahms! Et le vent qui s'en mêle, mon Dieu, nous allons conclure! Cessons de nous exclamer pourtant, les frais s'éloigneraient, nous reprendrons plus tard. Je vous laisse, et le traducteur Brahms qui n'en peut plus, et reprendrait plus tard. À tout à l'heure!
N'est pas insignifiant. Je ne pense pas que le vent soit insignifiant. La langue française équivoque, comme d'habitude. Je vous dis que je ne pense pas que le vent soit insignifiant, et vous pensez qu'il a une signification de ne pas être insignifiant. Pas du tout. Je veux dire que ce n'est pas du tout insignifiant. Hein, plus loin, signifiant, j'insiste. Le vent, c'est quelque chose qui vous fait taire. Une plume de grue.
Nous voilà, noyés dans le vent, dans le silence de la nature qui nous fait taire et écouter. Vous pouvez alors podcaster En Finlande, La Hasse au Brègue, chapitre 1, où le poète à cravate blanche se soumet aux grues, par Dominique Méhens. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, chapitre numéro 2, nous sommes toujours en Finlande et arrive soudain le chant des corbeaux. La nuit commence, vous écoutez France Culture et vous retrouverez dans un instant Christine Goémé, l'éloge du savoir.